Plusieurs obstacles peuvent empêcher les jeunes en situation de handicap ou pas de commencer le sport. La peur de l'échec ou du ridicule en sont certainement deux. Aujourd'hui, deux athlètes conférenciers nous partagent leurs trucs pour se mettre en action au signal. Kevin Breton au micro, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 20 octobre pour le sixième signal déjà de la saison. J'ai beaucoup de plaisir. Je pense que Mathieu aussi, beaucoup d'énergie à chaque fois et je le remercie de son enthousiasme que je partage. Aujourd'hui à l'émission, je suis très content parce qu'on a trois personnes en studio. C'est un record pour l'émission d'avoir autant de personnes et je vais donc vous les présenter tout de suite plutôt qu'attendre un peu plus tard. À ma droite immédiate, il y a Marine Gaillard du CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, dont la voix va certainement vous dire quelque chose si vous êtes un auditeur de Canal M. Bonjour Marine.
Bonjour Kevin, bonjour tout le monde.
Également à vos côtés, Normand Piché, avec qui vous allez mettre sur place une conférence le 25 octobre prochain. Bonjour Normand.
Bonjour Kevin.
Et finalement, également, toujours avec nous, également conférencier, également athlète, ex-champion du monde, Yves Laroche. Un plaisir toujours de vous revoir, Yves.
Bonjour Kevin.
Donc aujourd'hui, si j'ai réuni tout ce beau monde autour de la table, c'est pour savoir en fait comment c'est possible de donner la petite bougie d'allumage en fait qui va faire en sorte que des personnes, des jeunes ou non, vont se mettre en action, soit pour faire du sport ou autre. Des fois, le sport, ça peut être un tremplin. L'activité physique peut être un tremplin, par exemple, pour le marché du travail ou encore pour la réussite scolaire. On va explorer tout ça, mais avant, j'aimerais en apprendre un peu plus sur nos nombreux invités, en commençant avec Normand Piché, qui se décrit comme un nageur, un aventurier, un conférencier. Comment est-ce que je devrais vous résumer, en fait, en quelques mots, Normand?
Je pense que le mot aventurier serait le mot qui pourrait globaliser le plus, parce qu'effectivement, je suis un aventurier, je suis nageur de longue distance. Conférencier, c'est ce qui vient après les expéditions, c'est ce qui vient pour partager justement les apprentissages des expéditions. Je suis également auteur, entre parenthèses, à en devenir, puisque je travaille sur l'écriture d'un livre et d'un documentaire. Donc, plein de fonctions. Producteur, parce que ça devient des événements qu'il faut produire, ces grandes aventures-là. Donc,
plusieurs chapeaux dans votre garde-robe.
Plusieurs chapeaux. Ça dépend de l'heure de la journée.
Parlez-moi de O5, ce projet tout à fait titanesque, ce défi titanesque que vous avez relevé à la nage à travers le monde.
À travers le monde, oui. En fait, c'était de relier 5 continents à la nage d'une façon symbolique. Je dois le dire parce que j'ai quand même pas traversé le Pacifique ou l'Atlantique, mais c'était de relier les 5 continents avec une idée aussi derrière. Bon, naturellement, il y avait l'aspect physique, mais il y avait l'aspect humain aussi qui prenait beaucoup de place dans ce projet-là, avec un désir d'évoquer un message d'union, de solidarité à travers nos différences en tant qu'être humain, en tant que au-delà de nos cultures, de nos religions, de nos différences.
D'aller vers l'autre.
D'aller vers l'autre, d'aller vers de l'avant. Et voilà, c'était un peu l'idée. Relier les 5 continents à la nage, ça a été un pari qui a été assez risqué, dans lequel je me suis embarqué avec beaucoup de passion et de plaisir. Et ce pari risqué-là a été réalisé l'année dernière. Le 15 novembre, je terminais la dernière des 5 traversées.
C'est combien de kilomètres en tout?
Chacune des traversées, c'était variable, naturellement, selon le territoire. Au total, ça faisait une centaine de kilomètres, ce qui me prouvait qu'on n'est pas si loin les uns des autres.
Ça permettait de remettre en question l'idée qu'on a des distances, en
oui,
fait.
Ben oui, totalement. Les kilomètres, je dois dire que, et on en parlait tantôt avec Yves, on parlait du processus, et c'est là qu'il y en a eu beaucoup plus de kilomètres de nage. Ça a été dans le processus, dans la préparation pour affronter les différents océans.
À nager puis à ramer bien avant de vous mettre à l'eau, en fait.
Un petit peu moins de 2 ans avant.
OK.
Spécifiquement pour ce projet-là.
Wow, mais c'est quand même pas si longtemps que ça, en fait. Deux ans pour se préparer pour une affaire d'une si grande envergure, en
non,
fait.
Non, c'est pas si pire, mais il faut savoir que j'en étais pas à mes premiers coups de bras. Non, j'avais quand même nagé. J'ai commencé à nager à l'âge de 7 ans. Donc, il y avait quand même un background à tout ça. Mais pour le projet spécifiquement, je me suis remis à l'eau d'une façon sérieuse en octobre 2014 et en novembre 2016, le projet était réalisé.
Est-ce que vous pouvez me parler aussi, depuis que vous êtes de retour, vous avez aussi développé une certaine curiosité envers les nageurs paralympiques? Je trouvais ça intéressant. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse et que ça a piqué votre curiosité?
Ben, en fait, c'est pas tellement depuis mon retour de l'expédition comme de mon retour des Olympiques de Sochi. J'étais allé là-bas pour faire pour l'écriture d'un livre qui avait pour titre Du rêve à la réalité, un livre que je n'ai finalement pas écrit parce que je racontais l'histoire de d'autres personnes. Puis à un moment, je me suis dit, j'ai plutôt l'envie de vivre mon propre processus, de vivre mes propres Olympiques. Je me suis embarqué dans ma propre aventure, mais c'est à Sochi que j'ai eu une espèce de fascination pour les athlètes dans un premier temps. Puis quand je suis revenu ici, j'ai des amis, dont Benoît Huot, qui est un
Oui,
nageur paralympique.
un
Et
bon
ça,
ami de la station.
un bon ami de la station. Et ça m'a intrigué parce que je trouvais qu'il y avait, non pas que je veux diminuer l'athlète en tant que tel, mais que l'athlète paralympique, il y a une vertu encore plus grande pour moi parce qu'il y a des petits obstacles que l'athlète régulier n'a pas.
Il part pas nécessairement sur la même ligne de départ que les athlètes sans handicap.
Exactement. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de fascinant dans tout ça. Et j'en suis encore aujourd'hui fasciné. Je le suis fasciné. Entre autres, avec le Siva, j'ai vécu le Dead End Race en 2015. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Marine, comment ça a commencé cette collaboration entre Normand et le Siva?
Oui, en fait, Normand a été bénévole pour une course à obstacles. Donc, on allait participer à une course à obstacles. Il y avait une bonne vingtaine de bénévoles pour trois personnes en fauteuil à mobilité réduite qui étaient là. Puis Normand était bénévole par ami interposé. Et ça a commencé l'aventure avec le Siva,
C'est quoi
qui
les
a été un
courses
petit peu
obstacles pour les
plus...
gens qui connaissent pas nécessairement? C'est un peu un peu une espèce de trajet militaire comme on peut voir
Oui,
là.
exactement. Souvent, c'est en montagne. Souvent, il y a pas mal de boue, beaucoup d'obstacles à franchir. Donc là, cette fois-là, c'était un 8 km avec une quarantaine d'obstacles en montagne.
Et là, votre rôle normal dans ça, c'était d'aider les personnes en fauteuil roulant de traverser certains obstacles qu'ils pouvaient pas faire seuls, par exemple?
Ben, en fait, c'était de les accompagner à travers tous les obstacles, comme s'il n'y en avait pas eu de. Comme les athlètes réguliers ou le grand public qui se prêtait au jeu aussi. Donc, on devait franchir chacune des étapes, même le fauteuil roulant devait franchir les étapes. C'était de les aider, oui, c'était de développer cette espèce de synergie d'équipe-là pour faire en sorte que,
Il n'y a plus de
justement, la
limite.
différence, la limitation qu'il y avait avec les personnes à mobilité réduite, ben, qu'il n'y en ait plus.
Est-ce que c'est un bon coup de départ des activités comme celle-ci pour se mettre en action et avoir une première initiation au sport, les courses à obstacles où on est entouré de bénévoles si on est une personne avec un handicap?
Ça peut éventuellement, c'est sûr que ça dépend aussi de chaque personne. Tout le monde n'aime pas ça. C'est un petit peu plus extrême,
Ça commence à être
hein?
un peu rough, en fait. On est peut-être mieux de pas
Oui.
commencer avec ça.
Oui, mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment le fun et où il y a vraiment le sentiment de l'appartenance à une équipe est très importante. Donc aussi, les gens peuvent rechercher ça dans le sport. Donc ça peut être une bonne façon aussi.
Et vous n'avez pas fait de course à obstacles. Par contre, vous avez dévalé beaucoup de pentes dans votre carrière, beaucoup de montagnes. On va en apprendre un petit peu plus sur votre parcours dans un instant.
Choses.
On est de retour en onde, toujours. Marine est déjà en train de parler.
Pardon,
On
pardon.
vantait toutes vos vertus d'animatrice et de cette belle voix chaleureuse qu'on aime tant entendre à Canalem, Marine. Oui, ben là, je cède la parole à Yves parce qu'on a hâte de l'entendre. Yves, le point commun qui vous unit avec Normand, c'est que vous aussi, vous donnez des conférences.
Oui.
Mais peut-être à s'attarder davantage à votre parcours sportif pour les gens qui ne connaissent pas encore
OK.
l'athlète que vous êtes.
Alors, j'étais à 2 reprises vainqueur de la Coupe du Monde en saut acrobatique. À la suite de ma carrière d'athlète, j'ai eu un grave accident. Et à cause de ce grave accident, je suis demeuré aujourd'hui avec des difficultés qu'il faut que je vis avec. Mon langage, ma démarche. Alors, pour moi, c'est un très gros handicap, mais aujourd'hui, c'est comment que je fais, comment je peux faire pour passer à travers tout ça avec ces difficultés-là.
Tout à fait. Est-ce que ben, pendant la petite intermède musicale, je vous entendais commenter avec Normand au sujet de la comparaison et des parallèles entre les athlètes paralympiques et les athlètes olympiques. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous pouvez leur dire maintenant qu'on est en onde?
Alors, la personne qui a un certain handicap qui se retrouve aux Olympiques, déjà la ligne de départ pour lui, c'est déjà grandiose d'être là. Et en plus, sa difficulté, c'est de se rendre à la fin.
Vous, vous avez continué, même après votre accident, à pratiquer un sport.
Oh oui, je fais encore.
Vous vous gardez en bonne forme.
Oh
là.
Oui, je me garde en forme. Pareil, je trouve tellement que mon corps a fait exactement au-delà de qu'est-ce que je lui ai demandé, le fait avec un plaisir fou. Alors aujourd'hui, je respecte mon corps, je garde en forme.
Est-ce que, ben là, il faut dire également que vous avez vieilli depuis vos belles années, mais est-ce que la pratique du sport avant votre accident et après votre accident vous procure le même plaisir et la même adrénaline?
Le même plaisir, mais pour moi, comment je vous dis, la réussite n'est plus la même. Aujourd'hui, faire le sport, pas uniquement pour le faire, pour sentir à la fin que j'ai réussi, pour moi, je suis aussi fier. Comment est-ce qu'il... Je ne prends plus les pistes d'avant, c'est certain que c'est terminé tout ça. Mais aujourd'hui, je prends juste une piste totalement banale pour tous les skieurs, banale, mais lorsque j'arrive en bas, il me fait plaisir de dire merci.
Puis quand vous pratiquez le sport, est-ce que vous sentez que, parce que je sais que vous participez également à des activités caritatives via le sport,
oui.
Quelle est la valeur ou l'importance du sport selon vous pour redonner à la communauté?
Eh wow, très bonne question. À l'école, j'ai appris à compter et à écrire. Magnifique ça. Mais c'est le sport qui m'a enseigné comment affronter mes difficultés et d'en sortir gagnant.
Puis c'est ce que vous voulez retransmettre aujourd'hui, exactement. Selon vous, aux jeunes ou aux moins jeunes, oui. En fait, parce qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer le sport.
Non, il n'y a aucun âge. et pour moi, ce qui est le plus important quand je faisais du sport, lorsque je terminais une compétition, quand je vais en bas de la piste, jamais je me suis demandé pourquoi je l'ai manqué. Je me disais tout simplement dans le mois maintenant, la prochaine compétition qui va avoir lieu la semaine prochaine, comment je peux faire pour réussir?
Ouais, je comprends. Puis votre accident dont vous avez fait mention tout à l'heure, c'est pas comme on aurait pu croire un accident qui s'est déroulé pentes de ski.
Non, c'est pas
un drôle d'hasard.
Je me suis blessé gravement en m'amusant.
Pour un autre sport.
Un autre sport complètement. Un autre sport, mais pour moi, je faisais le parapente. Que le parapente, c'est un sport qui était dans les airs parce que moi, je me sentais bien dans les airs. Parce que moi, j'ai fait ce sport-là parce qu'après mon ski acrobatique, je me sentais un peu invincible.
Puis en bout de ligne, ben là, est-ce que vous vous sentez toujours invincible aujourd'hui ou vous avez une nouvelle vision sur votre corps?
J'ai une nouvelle vision sur mon corps, mais aujourd'hui, je ne peux plus en demander autant. Mais au niveau de l'esprit, tout ça, je me sens que je suis capable.
Je vais retourner la question maintenant à nos deux collègues concernant qu'est-ce que le sport peut servir de tremplin pour pouvoir redonner à la communauté. Selon vous, c'est quoi la valeur du sport, en fait? Puis là, je vois Normand pointer vers Marine, qui semble être la personne désignée pour répondre.
Ben, le sport, selon moi, amène aussi, ben, en tout cas chez les jeunes, là, nous, ce qu'on constate, beaucoup de confiance en eux. Donc, c'est vraiment une valeur qui est très travaillée à travers le sport. Puis qui est une valeur essentielle pour la construction. D'un jeune dans
la
sa vie.
La construction comme identitaire, l'estime de soi.
Exactement, dans sa vie. Ça, c'est des habiletés qui vont être transférables dans d'autres sphères de la vie, que ce soit à l'école, que ce soit par la suite pour intégrer le marché de l'emploi, etc. Donc, pour avoir une vie active.
Puis vous avez des exemples, beaucoup d'exemples de réussite qui ont passé par le CIVA, des jeunes qui se sont inscrits au CIVA, qui n'étaient pas nécessairement des grands sportifs, puis qu'aujourd'hui, moi j'ai Woody en tête, là, qui est une véritable machine sportive. Là. Chaque fois que je le vois, je suis un petit peu complexé.
Chacun sa victoire. Hein. Il y en a qui vont venir faire du récréatif, puis leur victoire, ça va être d'être là, de rester motivé, de socialiser, d'avoir des liens forts avec leur équipe. Pour d'autres, ça va être vraiment plus l'aspect compétitif puis de performer. Donc, ce qu'on retire du sport, c'est vraiment propre à chacun. Ce qui est important, c'est de trouver ce qu'on aime, ce qui nous plaît et d'en retirer des bénéfices et des satisfactions.
Souhaitez-vous rebondir là-dessus, Normand?
Je savais qu'elle aurait la réponse parfaite.
Tout a été.
Mais c'est parce qu'avec le CIVA, il y a tellement d'exemples qui sont présentes pour témoigner de tout ça. Je crois que je pourrais pas dire mieux que Marine.
Bon, ben, on lui laisse le mot de la fin pour cette deuxième partie.
Oui.
Puis on revient pour la dernière partie. On va s'intéresser au contenu de vos conférences, messieurs.
Totalement.
De retour au Signal, toujours avec Yves Laroche, ex-champion du monde. Également Normand Pichet, qui a traversé le monde à la nage, rien de moins. Bon, on le dit, c'est pas distance nécessairement mathématique, là, mais de manière symbolique. Et maintenant, les deux, ben, vous repartagez vos expériences via des conférences. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un passage obligé pour un athlète de faire des conférences et de redonner de son vécu après avoir terminé soit une carrière ou encore une grande épreuve?
Avec ma clientèle principale, c'est les jeunes à l'école. Et lorsque je termine ma conférence, à l'école, je parle du rêve. Je leur montre qu'un rêve, ça peut se transformer en but, en objectif. Et c'est réalisable, je l'ai fait.
Mm-hmm.
Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un ovni. Je suis fait exactement comme tout le monde. Alors, je l'ai fait, ils sont capables. Et en terminant, une seule chose que je demande aux jeunes de se souvenir de ma conférence, une seule, à se dire à nous-mêmes, je suis capable.
Est-ce que ça résonne également dans la conférence? Que...
Ben, totalement. Je pense que ce n'est pas un passage qui est obligé après une performance ou après une carrière ou après une aventure. Moi, je suis en train de me préparer pour une nouvelle aventure, mais il y a très certainement des choses que l'on peut partager de notre expérience.
Mais est-ce que tu sens ce devoir-là de devoir le repartager?
Ben, je sens surtout le désir.
Mm-hmm.
Hein, c'est pas un devoir. Je pourrais très bien faire autre chose, avoir un boulot ordinaire après. C'est un désir. C'est quelque chose qui m'allume. Ça faisait partie des objectifs de l'expédition, de partager les apprentissages,
mm-hmm.
de le faire avec les jeunes, avec les moins jeunes, mais de vivre une expérience puis de pouvoir partager par la suite, ben, ça venait se connecter à mes valeurs puis à ce que j'avais envie de faire. Alors, le passage n'est pas obligé. Certains le font, certains ne le font pas. Moi, je le fais avec grand plaisir. Et c'est la chose qui demeure très certainement une des choses les plus valorisantes de savoir qu'on, en tout cas pour moi, je vais parler personnellement, qu'on peut contribuer
mm-hmm.
à peut-être semer une petite graine dans le cœur de quelqu'un, dans l'imaginaire ou dans l'esprit. Puis, je m'amuse souvent à dire, j'espère qu'un jour, plus tard, quand je serai plus vieux, qu'il y a des jeunes qui pourront venir me rencontrer, ou des moins jeunes, mais de dire, ben, quand tu as été de passage dans mon école ou dans notre entreprise, ça a fait une petite différence pour moi, puis j'ai réalisé X ou Y chose. Et voilà.
Les deux cas, c'est ça. L'idée, c'est de semer une petite graine, puis on espère que ça va pousser, puis
ben
éventuellement
ouais.
donner un arbre.
Ouais, voilà.
Et Kevin, dans les entreprises, mon thème de conférence est sur la victoire. Qu'est-ce qu'est la victoire? Parce qu'aujourd'hui, dans la société, on se réfléchir du gagnant.
Mm.
Mais qui est le deuxième? Souvent, il faut réfléchir longtemps.
On ne se rappelle pas c'est qui le deuxième sur la Lune ou le deuxième à avoir marqué 50 buts en 50 matchs.
Mais à mes yeux, moi, le deuxième, troisième ou le vingtième, c'est un vainqueur pour moi s'il a fait le mieux qu'il pouvait.
Est-ce que c'est ça le message qu'on devrait passer si on veut inciter les jeunes à traverser leurs peurs ou leurs craintes ou les peurs de l'échec, par exemple?
Entre autres.
Oui,
notamment.
Oui, je pense que montrer aux jeunes uniquement qu'est-ce que tu peux faire et comment tu peux t'améliorer face à toi-même. Parce qu'aujourd'hui, l'image est importante. Ouf! Très important.
La perception.
Oui.
Puis ça peut également nuire, j'ai l'impression. Tu sais, moi-même, en tant que personne avec un handicap, la perception que les autres vont avoir de moi, surtout s'il y a un échec, j'ai l'impression que ça peut être un double fardeau, tu sais. Les gens vont dire, ah, ben, il a pas réussi, mais c'est à cause de son handicap.
Il y avait un autre jour, je rentre au centre d'achat. Devant moi, une dame assez âgée avec un quadripode, quasiment un fauteuil roulant.
Mm-hmm.
La madame, elle a senti que je m'en venais derrière, que je boitais. Elle m'a ouvert la porte. Qu'est-ce que je fasse?
Ouais.
Tout ce que j'ai pu faire, c'est lui dire merci.
La courtoisie, des fois, ça va dans les deux sens. Puis en vous parlant, Norma, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de une bonne façon d'entreprendre les premières démarches, que ce soit pour faire du sport ou la première étape pour atteindre son rêve. Il faut surtout être habité par un sentiment d'urgence. Est-ce que je me trompe?
Peut-être que non. Je pense que c'est très propice à chacun, là, le sentiment d'urgence, ou peu importe la petite graine ou ce qui amorce un projet comme celui-là, ça peut être très, très personnel. Moi, j'en avais pas de sentiment d'urgence. J'avais surtout un désir d'atteindre mon plein potentiel et à différents niveaux. Ça a passé par le sport, entre autres. Et j'en suis bien fier. On parle de compétition. Tu sais, on vit dans un monde qui est très compétitif, que ce soit au niveau des affaires ou du monde, même dans le sport. Pour moi, la dimension de la compétition n'était pas axée envers les autres, elle était axée sur moi-même. Je ne tentais pas de faire cette expédition-là pour être plus vite ou pour être meilleur qu'un autre. J'avais envie de toucher mon plein potentiel, tout simplement.
Mais quand je parle de sentiments d'urgence, c'est... Bon, ben, je pense que vous avez vraiment une philosophie de si j'ai un rêve à accomplir, je dois tout de suite commencer, jour 1, à faire le premier pas.
Ah, totalement. Ça, c'est pour moi, c'est tu as tout à fait raison. On travaille beaucoup avec des plans, hein? On se construit des plans, des structures pour y arriver. Mais pour moi, la première chose qui apparaît sur un plan, c'est ce qui se fait maintenant, ici, aujourd'hui.
Aussi petit soit ce pas, en fait, ouais. C'est ça l'important.
Voilà.
Mais aujourd'hui... La nouvelle génération, c'est qu'on veut le résultat tout de suite. Alors moi, quand je vois dans ce cas qu'on va dire que des jeunes qui regardent des athlètes olympiques fatigués, ils veulent déjà être là.
Ils veulent déjà être rendus sur le podium au jeu. Là.
Alors, au lieu de voir le petit progrès qu'il fait tous les jours, lui, il voit uniquement le point final. C'est tough, ça.
Ouais. Puis ça peut effectivement vraiment...
C'est décourageant, c'est démotivant. Aujourd'hui, je rencontre encore des athlètes, je dis okay, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as amélioré aujourd'hui?
Donc, c'est mettre des objectifs à court terme.
Oui, exactement.
Jour 1. Super. En terminant, Marine, pour la conférence du 25 octobre, Normand nous a ramené des belles images, semble-t-il.
Oui.
Donc, ce ne sera pas nécessairement qu'une conférence, le modèle que l'on connaît habituellement. Il va y avoir une espèce de film à travers
exactement,
ça.
Exactement. En fait, c'est une ciné-conférence. Il pourrait mieux parler que moi de sa conférence, mais l'objectif étant vraiment de faire un événement bénéfice au profit du suivant. Et c'est aussi un événement qui va permettre à plusieurs jeunes et moins jeunes de voir cette conférence-là, puis d'être motivés, on l'espère, à faire du sport, commencer leur pas dans ce sens-là.
Puis, ben Normand, on peut également visiter votre site Internet parce qu'il y a un autre projet d'envergure qui s'en vient de votre côté.
Ah oui, mais ça, on ne peut pas en parler tout de suite.
Pas trop
on peut juste
dire
qu'il y a un nouveau projet qui s'en vient. Dans un premier temps, j'invite les gens à venir à cette soirée mercredi prochain pour le SIVA, une soirée que je suis hyper fier de faire parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire en 2015 avec le Dead End Race. Et là-bas, quand on parle de ciné-conférence, il faut faire attention, il y a beaucoup de visuels. C'est une conférence qui se veut immersive, mais on s'en vient pas au cinéma non plus dans cette soirée-là. Normand parle beaucoup pendant cette soirée-là. Partage ses apprentissages, c'est très interactif et immersif. Alors,
Puis c'est pour redonner au SIVA qui va donner un petit peu ce petit goal-là de vous intéresser au monde paralympique ou au monde du parasport. En quelque
voilà, sorte. Très bien
Merci
dit.
Merci beaucoup.
Merci.
Puis Yves, on peut visiter votre site internet yves-laroche.ca si on veut suivre vos prochaines conférences.
Oui.
Vous les faites venir dans les écoles ou dans les entreprises.
Exactement.
Et vous adaptez votre conférence
Exactement,
en fonction.
Exactement, oui.
Un gros merci d'être venu aujourd'hui à vous trois. On va mettre toutes les informations sur notre site internet vusezvoix.com, notamment l'adresse et pour se procurer des billets pour la conférence de Normand le 25 octobre prochain à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là. Et moi, il me reste une petite lecture de nouvelles à vous faire dans un instant. Allison Levine, la joueuse de boccia, a quitté Kansas City avec deux médailles de bronze au cou. Elle a affronté Davor Komar, un nouveau joueur de la Croatie, en duel pour la médaille de bronze et a remporté le match 3-2. Le Vine a fait preuve de discipline dès le début de la rencontre, volant un point sur le cochonnet de Comar en première manche et bloquant l'accès au cochonnet tout au long du duel. Je vois acheter de la tête. Est-ce que vous la connaissez, Marine?
Oui, bien sûr, c'est une athlète du CIVA.
Est-ce que c'est une prodige du CIVA?
Oui, exactement.
Une des nombreuses et donc, qui rentre de Kansas City, de l'Open de Boccia. Nos athlètes continuent de bien faire en natation. Peut-être que vous connaissez Philippe Vachon, Normand, qui a abaissé un record canadien au 100 mètres papillon avec un temps de 1 minute 6 secondes et 39 centièmes lors de la première soirée de l'Open du Canada au Centre sportif panaméricain de Toronto. Je suis vraiment content, je me sentais très bien dans l'eau, a dit Vachon, originaire de Blainville. Je pense que le camp d'entraînement en altitude au Nouveau-Mexique a beaucoup aidé. Ma respiration était meilleure qu'à l'habitude. Bien qu'il vienne d'abaisser un record, Vachon pense déjà à ses prochaines épreuves. Le plus important étant le 100 mètres d'eau qui a lieu le lendemain, puisque l'épreuve sera une sélection pour les Jeux du Commonwealth. Le Canada avait 4 représentants aux 400 mètres libres, dont Aurélie Rivard, la détentrice du record du monde aux 400 mètres libres S10. Elle a arrêté le chrono à 4 minutes et 34 secondes 8 centièmes. En terminant, je vous invite la semaine prochaine à Montréal. Bien, il va y avoir un tournoi de qualification pour les mondiaux de volleyball assis. Ça va avoir lieu du 26 au 29 octobre. Et on va recevoir José Rebello à l'émission la semaine prochaine. On va s'intéresser au volleyball assis, aux différentes versions adaptées du volleyball, parce que moi, je connaissais le volleyball assis. Je ne sais pas si vous saviez, Marine, qu'il y a d'autres versions du volleyball adapté.
Oui, le volleyball en fauteuil, notamment.
Ouais,
je ne les connais pas toutes.
Il y en a même debout
volley,
pour les personnes qui ont des amputations, etc. Donc, on va découvrir les différentes facettes de ce sport-là. Puis, on va également découvrir pourquoi ce sport semble un peu plus populaire dans le Canada anglais que dans le Canada français, ça promet. Donc, j'ai très hâte de vous retrouver, moi, la semaine prochaine, même heure, même poste. Et d'ici là, portez-vous bien.